vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Non, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Et si pour cette dernière, on invitait celles et ceux qu'on n'a pas eu cette année, dont on a vraiment aimé les films ou qui nous ont été révélés? Ils sont trois sur cette shortlist, une actrice toute neuve et deux cinéastes avec nous ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est émouvant une première fois, enfin surtout quand elle est réussie. Bonjour Sarah Enoksberg.
Bonjour.
Première apparition dans ce film, c'est ça l'amour de Claire Burger. Et quelque chose nous dit que ce ne sera pas la dernière. On l'avait déjà repéré avec son premier film Keeper, son deuxième d'habitude le passage le plus difficile, est complètement réussi. Bonjour Guillaume Senez.
Bonjour.
Il fallait bien un peu de belgitude pour cette dernière, beaucoup de finesse et de la profondeur dans ce deuxième film donc, Nos batailles. Celui-là pourrait presque être le préquel de son film Hippocrate. Première année, deux étudiants dans une compétition effrénée, les études de médecine. Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
Grosse saison pour vous, j'ai l'impression de parler à un sportif. En plus de première année, vous êtes l'initiateur et le réalisateur de la série, la grande série Hippocrate. Merci à tous les trois de revenir après la bataille sur vos films respectifs. Enfin, les sorties de notre dernier mercredi avant l'été, entre un blouson andin et Buñuel après l'âge d'or, plus les festivals, plus les films attendus cet été, on se dépêche, c'est parti.
Vas-y, balance. Qu'est-ce qu'il y a?
Alex dit que maman est à l'embuscade là maintenant.
Avec Audrey?
Avec des mecs. Ils jouent aux fléchettes.
Non mais c'est n'importe quoi.
Si, c'est maman, le regarde.
Quoi, mais t'es sérieuse là?
Mais vous êtes vraiment des petites connes. Hein.
Là que ça fout de ta pote de prendre les gens en photo comme ça?
C'est pour nous aider.
Nous aider de quoi en fait? Enfin, j'ai pas besoin d'aide moi. Maman elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Donc toi tu t'occupes de tes affaires, arrête de penser à ça là, c'est n'importe quoi.
Deux filles, deux sœurs dans une chambre d'ado, Frida 14 ans et Nikki 17 ans, c'est vous Sarah Enoksberg, choisie par Claire Burger, la réalisatrice de C'est ça l'amour, sortie en mars dernier, c'est votre premier film, l'histoire d'un homme fatigué, c'est Bully Lanners, qui depuis que sa femme est partie tient à la maison en désordre comme lui et élève ses deux filles. Claire Burger vous rencontre dans un mariage, vous voit danser, et qu'est-ce qui se passe? Elle vient vers vous, elle vous parle?
Ouais, à peu près. Je suis partie aux toilettes boire un peu d'eau.
Oui.
C'était un mariage, donc voilà. Et elle est venue me voir dans les toilettes. Désolée, mais c'est vraiment passé comme ça.
Bon,
voilà. Et elle est venue me voir en me demandant si je voulais passer des essais pour un film. Moi, je la connaissais pas du tout. J'avais même pas vu Party Girl et tout. Je savais pas qui c'était. Et du coup, j'étais un peu perturbée de qu'on me propose de faire ça. Donc au début, j'ai dit non, enfin ça m'intéressait pas. Puis plusieurs fois dans la soirée, elle est revenue me voir et du coup, à un moment donné, j'ai dit bon bah oui, pourquoi pas, je vais pas dire non.
Vous pensiez pas à devenir actrice? Vous avez...
Pas du tout, du tout.
Pas de rêve de ça du tout?
Non, pas du tout.
Mais alors, quand elle vous propose de faire des essais, elle vous donne un petit texte avant, vous l'apprenez, comment ça se passe?
Non, en fait, elle m'a appelée une semaine plus tard et l'idée, c'était de faire de l'impro. Et du coup, je suis venue avec ma petite sœur, ma vraie petite sœur,
ouais.
et ma meilleure copine. Et du coup, on m'a fait une espèce de d'essai impro à trois pendant une heure et demie. Et c'était génial. J'ai adoré, on a rigolé, c'était parfait. Et après, bon, du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait ça, c'était super. On s'en va, c'était un bon moment. Et puis, j'ai eu une réponse deux semaines plus tard. Et du coup, voilà.
Et là, vous n'avez pas pris peur, justement, quand on vous a dit, bon, c'est pour de bon?
En fait, je me rendais absolument pas compte de ce que ça voulait dire, de enfin, je sais pas.
Mais Sarah, vous allez arriver, ensuite vous arrivez sur un plateau de cinéma,
ouais.
avec des machines, des caméras, un dispositif, des horaires, etc. Racontez, c'est quoi votre première impression? Là, vous vous dites, non là, c'est bon quoi, c'est pour de vrai.
Bah, c'était hyper perturbant au début, mais j'ai eu un espèce de truc où direct, je me suis dit, bon bah, c'est un travail. Faut le faire hyper sérieusement. J'étais pas dans une euphorie complètement aveuglée par la situation. J'étais, en fait, bizarrement, j'étais hyper. Bon bah voilà, faut travailler. Enfin, je sais pas. je l'ai vécu vraiment comme ça au début, c'est petit à petit. Je me suis dit, mais en fait, c'est en train de... Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de dingue. Je voyais plus ma famille, on m'envoyait des messages, mais ça va et tout. Je me disais, mais en fait, ça fait 2 mois que je suis à Forbach, c'est dingue. Je sais pourquoi. Pour faire quoi? Qui l'eût cru d'aller à Forbach pendant 2 mois? Et en fait, non, mais c'était hyper bien. Enfin, j'ai... Mais sur le moment, c'était vraiment... Bah, je sais pas.
Un vrai travail.
Oui, voilà. Oui. Mais j'étais hyper contente. Hmm? Mais bizarrement, je l'ai vraiment pris comme ça au début.
Mais Nikki, c'est pas vous. Vous l'approchez. C'est une question qu'on pose aux acteurs. Comment avez-vous approché ce rôle? Non, mais vous avez essayé de la comprendre. Vous avez posé des questions à Claire Burger sur elle.
Oui, en fait, du coup, elle nous a expliqué toute l'histoire autour de. Enfin, que ça parlait d'elle, de sa famille, de son père, de sa sœur. Et petit à petit, oui, elle aussi développait petit à petit ses histoires dans sa famille. Donc on rentrait, nous aussi, au fur et à mesure dans cette famille, en fait, oui. qui était la sienne. Et puis même de jouer dans la maison du père de Claire, avec les chambres, enfin voilà, le bordel qui est là, qui est aussi le bordel du père de Claire. Bah, ça nous a beaucoup aidés. Après, Nikki, je suis pas non plus très éloignée parce que je suis grande sœur aussi d'une. Enfin voilà, j'ai une petite sœur qui est à peu. Enfin, on a 3 ans d'écart et mes parents sont séparés, donc ce rôle de grande sœur qui doit gérer un peu le crise familiale, voilà, de séparation, je l'ai un peu vécu. Bon, j'étais beaucoup plus petite, mais je veux dire ça me parlait.
Démonstration de votre talent, Sarah, dans cette scène avec votre petite sœur et votre mère qui vous raconte un peu comment ça va se passer.
J'ai un petit peu le droit de penser à moi.
Bah ouais, t'as le droit de reprendre ta liberté.
C'est pas la question, Frida. Ton père m'a jamais privé de liberté.
Mais ça va prendre combien de temps encore, exactement?
Dans à peine quelques mois, je pense.
Quelques mois? Tu sais que papa, il m'a frappé, hein. Il m'en a collé une.
Mais tu rigoles ou quoi? Il s'est excusé de 1. De 2, c'est parce que tu le saoules en ce moment, c'est normal qu'il t'ait frappé. Elle est hyper chiante avec lui en ce moment.
C'est pas malin, Frida. Faut que tu comprennes que c'est dur pour ton père aussi.
Mais pour moi aussi, c'est dur. Putain, j'ai pas envie de vivre avec lui, c'est clair.
Ma chérie, faut que tu sois patiente. Faut que tu soutiennes ton père. Et puis cet appartement, c'est un petit peu long parce que cet appartement, je vais pas le prendre toute seule. J'ai rencontré quelqu'un. Je vais bientôt vous le présenter.
Mais qui ça? Quelqu'un? De quoi tu parles?
Bah, elle a un mec. Tu croyais quoi? Qu'on allait vivre toutes les trois et tout comme ça? Non, mais pas du tout, hein. T'imagines si papa, il nous voit comme ça partir avec un mec qu'elle se tape dans son dos depuis des mois, genre?
Nikki, tu peux pas dire ça comme ça.
Mais c'est exactement
non,
ça.
Tu peux pas parler comme ça.
Papa,
ça.
Il va être tout seul. Il va être tout seul après. Et quand moi je vais partir, il y aura plus que toi.
Non, bah, vous barrez, vous faites votre vie tranquille. Et moi je dois rester avec lui pour le soutenir.
Pourquoi tu t'en prends à ta sœur? Arrête.
Je m'en prends à personne. Je lui explique la situation.
Qu'est-ce que tu fais?
Mais je me casse.
Non, Frida, s'il te plaît, reste non. Là. Franchement, j'essaie de trouver les mots et tout, c'est pas facile. Et
pourquoi non, tu parles comme ça faute, là. C'est de ma faute, là, sincèrement?
Non, bien sûr que non, c'est pas ta faute. Voilà. Bien sûr que non, c'est pas ta faute.
C'est l'envie de se casser. Donc.
C'est ça l'amour, Claire Burger, à côté de vous, Sarah Enoxberg, il y a Justine Lacroix, votre petite sœur, et votre mère, incarnée par Cécile Rémy-Boutan. Question 2, vous avez vu ce film, Guillaume Sénèze et Thomas Dilty?
Oui, c'est sûr. Oui.
Et il se trouve que le thème de votre, qu'on va aborder un petit peu plus tard, Guillaume Sénèze, Nos batailles, est très proche de ce film de Claire Burger. Ce sont deux hommes perdus et un peu féminins aussi.
Oui, bah, quelque part, c'est rassurant, en fait, de voir que des cinéastes ont les mêmes préoccupations. C'est aussi notre rôle, hein, de donner un regard sur le monde qui nous entoure. Donc, c'est quelque part logique, en fait.
Thomas Dilty.
Oui, sur les deux films, mais notamment sur le film de Claire Burger, C'est ça l'amour. Le point commun entre le film de Guillaume Sénèze et le film de Claire Burger, au-delà du sujet, c'est aussi la part belle donnée aux comédiens, quoi. C'est vraiment, les acteurs, les actrices sont, on sent qu'il y a une passion pour le travail avec les acteurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui moi me bouleverse beaucoup quand je vois les films et je vois cette qualité d'interprétation à tout point de vue de tous les seconds rôles, tous les personnages, et ça c'est assez bluffant.
Tous les deux, vous avez déjà travaillé avec des non-professionnels comme le fait Claire Burger, et notamment des enfants, par exemple, avec les deux enfants de Romain Duris dans Nos batailles. C'est compliqué? Guillaume Senez.
Non, parce que, mais bon, après, moi, je travaille peut-être un peu différemment, à savoir que je ne donne pas les dialogues aux comédiens, donc finalement, qui sont sur des enfants ou des non-professionnels ou des gens qui ont 40 ans ou 40 films derrière eux, c'est finalement la même façon de faire. En fait, l'idée, c'est de trouver une connexion entre les comédiens, qui se regardent, qui s'écoutent, qui soient ensemble, en fait. Donc, peu importe le background, alors forcément, des fois, il y a des techniques et des choses qui aident, mais la façon, la méthodologie est la même.
Sarah Enoksberg, je suppose que Bully Lanner, c'est un acteur qui vous a beaucoup aidé.
Ah mais énormément. Il est hyper généreux dans la vie surtout, mais dans son jeu vraiment. Et ça nous a énormément aidé de l'avoir. De donner toute cette énergie à chaque fois. Et puis pour lui, c'était tellement compliqué de refaire. Puis voilà, Claire, on enchaînait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises. Il était épuisé, mais à chaque fois, il donnait toujours la même énergie. Enfin, c'était incroyable, vraiment. Je suis hyper contente d'avoir pu tourner avec lui.
Comment vous vous trouvez dans le film? Vous avez réussi à vous regarder bien?
J'ai regardé un film, quoi. Enfin, c'était pas, je me suis pas regardée avec mes défauts. Et j'ai vraiment regardé le film, et parce que je pense que Claire est vraiment tellement forte que j'ai complètement oublié le reste et que je trouve le film super. Et après, j'en sais rien, j'ai pas vraiment de recul, mais le film est bien.
Si, vous avez beaucoup de recul. Vous travaillez quand vous faites un film, et après vous le regardez avec recul, là il y a beaucoup.
Et vous allez apprendre le métier maintenant?
Oui, du coup, maintenant.
Répondez pas.
Non, c'est vrai, vous avez pris des cours, vous allez...
Je me penche vraiment sur quelle manière... Enfin, j'ai vraiment envie de travailler ce métier, et je réfléchis encore à... comment je peux le travailler bien. J'ai jamais fait de théâtre et tout, donc je sais pas du tout. Je suis un peu flippée par rapport à ça. Je pense que je suis super nulle, donc vraiment, c'est un travail à faire.
Ce que je trouve magnifique, c'est que Sarah, ça lui tombe dessus un peu comme ça. Une réalisatrice lui propose un rôle et elle le prend pas comme un jeu. Elle le prend très sérieusement. Et je crois que c'est le secret, quoi. Et certainement, en dehors de ses qualités innées pour jouer la comédie, il y a un truc qui c'est le secret, c'est de le faire sérieusement. Ça, c'est incroyable.
Deux cinéastes donc sur ce plateau, Sarah Thomas-Lilti et Guillaume Senez, je voulais vous faire réagir tous les deux sur les propos d'un certain Quentin Tarantino que nous avions rencontré à Cannes cette année, où il présentait en compétition Once Upon a Time in Hollywood.
Le cinéma, il traverse une époque intéressante. Le cinéma semble bien se porter, mais en vérité, il est de plus en plus en compétition pour attirer notre attention. Il y a la politique, les informations. Moi, par exemple, j'ai plus suivi la politique ces deux dernières années que pendant tout le reste de ma vie. Donc la politique, la télé, les séries, les jeux vidéo, les médias sociaux... Notre attention a été acquise au cinéma pendant si longtemps, et aujourd'hui, il est en concurrence pour nous intéresser.
Thomas Lilti, Guillaume Senez, c'est vrai que la concurrence est rude. Tarantino le dit, parle de politique. D'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'il ait plus subi la politique en 2 ans, lui qui est un être de cinéma. Est-ce que vous sentez, bon, vous êtes jeunes tous les deux, mais est-ce que vous sentez que c'est extrêmement rude, cette compétition extérieure?
Oui, mais après, oui, bien sûr, je crois qu'on le ressent, mais moi, je me méfie toujours de ce sentiment un peu égocentrique sur l'époque. On a toujours l'impression qu'on vit un bouleversement. Mais je pense que le cinéma, qui n'a qu'un siècle, grosso modo, a vécu que des mutations tout le temps, et donc on est certainement encore dans une mutation et dans un sentiment en effet de compétition avec plein d'autres images, d'autres médias. Etc., d'autres médiums, mais j'ai l'impression quand même, on a toujours l'impression de vivre un changement, mais qui est lié à un égocentrisme.
Mais quand même, Guillaume Senez, c'est difficile de faire un film, et c'est presque encore plus difficile de le faire exister.
Oui, c'est difficile, mais après, vous l'avez dit, moi, c'est mon deuxième long métrage. Oui. Donc, est-ce que c'était pas aussi difficile il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans? Je suis incapable de vous répondre. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été compliqué. Sur le cinéma d'auteur en particulier, ça reste compliqué à faire. Et Thomas l'a dit, effectivement, le cinéma, c'est un jeune art, en fait, comparé au théâtre, à la littérature, à la musique. Donc, on ne sait pas. Il parle des séries, des jeux vidéo, mais Si ça se trouve, dans 50 ans, les séries seront analysées comme on analyse maintenant la nouvelle vague, par exemple. On ne sait pas quel va être l'avenir de ça.
Comment ça s'est passé, vos sorties respectives? Parce que tout est important, le titre, l'affiche, la bande-annonce, le bouche-à-oreille. Est-ce que vous êtes contents tous les deux de la sortie de votre film, Thomas?
Oui, moi je suis content parce que le film il a trouvé son public en salle, donc on est obligatoirement content. Mmh. Moi je me pose plus trop des questions. Longtemps entre ce qu'on appelle le marketing, me souciais beaucoup. Aujourd'hui, finalement c'est pas ce qui m'intéresse. Ça m'a jamais passionné, mais je suis surtout plus dans le travail. Et aujourd'hui, avec le recul, le film étant sorti en septembre, ça fait quand même
plus d'un million d'entrées. Ça vous a surpris ça ou pas? Surpris ou pas?
Alors ça m'a pas surpris dans le sens où j'avais eu la chance de déjà faire ce type de score avec les films précédents, donc c'est ce qui crée une attente qui est dur à porter. Mais en effet on attend que mes films fassent le même type d'entrée, mais je m'étais préparé à ce que le film fasse moins. Je pensais qu'il avait le sujet était moins large, peut-être que par exemple que mon film précédent qui était Médecin de campagne, donc je m'attendais à ce que les gens aillent moins le voir en salle, et puis il se trouve qu'ils y sont allés quand même, donc oui, ça c'était une surprise quand même, on était satisfait. Mais ce qui est important, je crois, c'est que il y a un moment donné où moi, en tout cas, dans mon film, après la sortie, c'est plutôt sur le film que je suis critique plus que sur la façon dont il est sorti.
Ah,
le
oui.
Marketing, oui, c'est de me dire, est-ce que finalement, voilà, où est-ce que je peux travailler, où je peux progresser, qu'est-ce que je dois changer, comment sortir de ma zone de confort. Voilà.
Guillaume Sénès, vous aviez un élément très important dans votre film, c'est un grand acteur français, il s'appelle Romain Duris, ça c'est un moteur, il existe dès cette première scène, Olivier se démène au sein de son entreprise, un équivalent d'Amazon pour combattre les injustices, et cet entretien avec la DRH.
On va pas renouveler le contrat de Jean-Luc.
Pourquoi ?
Parce qu'on considère que Jean-Luc est plus tellement à même de faire le travail. Bon,
Jean-Luc, il travaille super bien.
Non,
je le vois tous les jours.
Oui, bah justement, c'est sur le terrain.
Il bosse super bien.
Il bosse super bien, mais je pense qu'il n'est plus capable de tenir la cadence, que physiquement, il est très fatigué, je le vois, il est très essoufflé. Moi, il y a des jours, j'ai même peur qu'il me fasse un malaise cardiaque.
Oh, les grands mots, non, mais attendez deux secondes là. Mais eh ben, on le met à l'empaquetage. Il y a de la place à l'empaquetage.
Bon, je t'ai fait venir
pour
te dire.
Pourquoi
notre
pas
décision, pas pour discuter avec toi. Je voulais
on
juste
le change
que tu sois
de poche, Jean-Luc, c'est très facile, Agathe.
Olivier, arrête. Tu sais bien.
Ne me dis pas que c'est un problème physique. C'est pas un problème physique.
C'est un problème qui est que.
Il a 53 piges, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Une équipe efficace, qu'il ne l'est plus.
Elle marche très bien, mon équipe. Elle marche très bien.
Tu fais ton travail, tu défends tes copains, moi je fais le mien.
C'est pas mes copains. Maintenant, à ce moment-là, ils sont tous mes copains. C'est pas une question. Non, mais juste, j'ai besoin que ce soit clair. Parce qu'après, moi je suis sur le terrain et je travaille avec
mon équipe. Mais justement, ne sois pas de mauvaise foi. Tu vois bien que Jean-Luc, il arrive plus à travailler comme avant. Tu veux vraiment qu'on en parle?
C'est pas un problème physique.
Nos batailles, Guillaume Sénès, quand on le voit un peu s'énerver comme ça, est-ce que vous avez appliqué la méthode, également dans cette scène, d'impro? C'est-à-dire que vous donnez le cadre, et ce sont ces deux acteurs qui improvisent alors. Comment ça se passe?
Alors, ça commence comme ça.
Oui.
On improvise, mais on arrive au dialogue. Les dialogues, ils sont écrits, ils sont très écrits. Mais juste, ils sont pas donnés. C'est juste une manière. L'improvisation permet d'y arriver, en fait.
Mais ils sont très écrits, donc ils existent.
Ils existent. C'est juste qu'ils sont pas donnés. C'est-à-dire que je les accompagne jusqu'à ce qu'on arrive au dialogue, en fait. Donc c'est pas vraiment de l'impro, c'est pas vraiment le texte donné. Ça se situe quelque part au milieu. Mais au final,
ils arrivent finalement à dire ce que vous avez envie qu'ils disent.
Exactement. Si je vous donne le scénario maintenant, après avoir vu le film, vous dites, ah oui, mais en fait, c'est pas du tout de l'impro, ça. C'est voilà. Évidemment, il y a des fois des différences, des fois l'utilisation de mots et de phrases qui diffèrent un petit peu, mais c'est quasi
identique. Mais d'où ça vient, cette méthode? Comment vous l'avez élaborée, cette méthode?
Venu d'abord instinctivement. C'était lors d'un court métrage avec François Civil à l'époque. J'avais peur qu'il s'enferme dans quelque chose d'un peu convenu. Je voulais pas qu'il se dise, ah ben c'est passé ça avant, il s'est passé après. Donc je me suis dit, je vais pas lui donner les dialogues. Par contre, je les avais donnés aux comédiens qui jouaient ses parents. Et j'étais très content du résultat. Et donc, le court-métrage d'après, je dis, on oublie les dialogues, je le donne à personne. Et j'étais encore plus satisfait du résultat. Donc j'ai continué à creuser mon sillon, j'ai continué à élaborer une technique qui en fait, et ça je l'ai appris après, qui était une technique de Stanislavski. C'est sa dernière technique qu'il a faite à la fin de sa vie. Là, il a créé plusieurs... voilà. Et en fait, du coup, je me suis un peu renseigné. Et donc j'affine un petit peu cette façon de faire qui me convient bien.
Et quelqu'un comme Duris accepte ce genre de...
Cette ah mais c'est ça, c'est... Bon, il avait vu Keeper, évidemment, donc ça a aidé, mais quelque part, c'est ça qui l'excitait. C'est cette façon de travailler, de pouvoir donner un maximum de liberté, de s'éloigner un petit peu des chemins un peu plus convenus. Voilà, donc c'est quelque chose... qu'il aime beaucoup, il aime prendre des risques, parce que c'est un risque en fait, hein, finalement, parce qu'on ne sait pas où on va, c'est travailler sans parachute quelque part. C'est sûr que tous les comédiens ne sont pas prêts à travailler comme ça, c'est normal, ils ont besoin de se reposer sur quelque chose, de pouvoir travailler une matière, donc ce n'est pas donné à tout le monde, et ça je respecte complètement, mais Romain Duris était très excité par ça, comme Laetitia Doge, Laure Calamy.
Alors justement, voilà, on a choisi un autre extrait qui est... Bon, bien sûr, bataille de l'intime, un homme qui doit prendre la charge mentale du travail, de la maison. On ne sait pas pourquoi la femme est partie, ça c'est très bien, parce que du coup, il n'y a pas cette charge-là supplémentaire. Mais il y a aussi un côté politique dans votre film. On a choisi un extrait qu'on aime vraiment beaucoup, c'est avec justement Laetitia Doge, sa sœur, à qui il demande de garder ses enfants parce que, en fait, elle n'a pas un boulot très sérieux.
Tu nous fais du bien.
Ouais, bon, j'ai quand même une vie, si je peux me permettre, tu vois. Ça me permet, ce genre de choses, de pouvoir venir vivre avec vous. Mais il faut que je bosse, quoi, tu vois. C'est ça qui me fait vivre, mon travail. Non, mais c'est parce que tu comprends pas.
C'est payé, au moins, c'est vrai.
Non, c'est pas payé.
C'est même pas payé. Qu'est-ce que tu parles d'un boulot, c'est même pas payé.
Non, mais c'est pas payé.
Il te file le chômage, au moins. J'espère qu'il... Non, t'as même pas de statut.
Mais non,
j'ai pas de statut. De toute façon, il y a le statut d'intermittent, il disparaît tous les ans. Il n'y a plus. Donc,
non, mais attends, de un, mon travail, c'est très important, même s'il n'est pas payé. Et ça peut mener à beaucoup de choses, ce truc-là, parce qu'on a des programmateurs qui viennent derrière de deux. Et de deux, j'ai pas de leçons à recevoir de toi, qui fait quand même le boulot le plus chiant du monde.
T'es rentré dans une usine aujourd'hui?
Je rentre 30 secondes dans ton usine.
Excuse-moi, ça n'a rien de chiant du tout, c'est l'inverse de chiant.
Je rentre 30 secondes dans ton usine.
Je suis désolé, c'est un travail d'équipe, ok? Ouais, on est tous là, on se serre les coudes, c'est un travail humain, et on avance, ok? On avance. Crois pas qu'on est là à rentrer vers les boulons.
Je rentre 30 secondes dans ton usine, je sais ce que tu fais. Moi, tu passes 2 ans avec moi, tu sais pas ce que je fais.
Ouais,
parce que moi, j'ai un boulot intéressant.
Ouais, bah, moi, j'ai pas le choix de pas savoir ce que je fais, ok?
Bah oui,
moi, j'ai pas le choix, parce que moi, je dois gagner de l'argent.
Exactement.
Okay, et je dois manger pour vivre.
Exactement. Pourquoi?
Ouais, bah, pour pouvoir se taper
un bon. Un bon cancer à 50 ans, voilà.
Ah, ça m'énerve que tu parles de ça.
Très intéressant, hein, les intermittents du spectacle. Mais ça, c'est un vrai débat, hein, de société.
C'est un vrai débat. Ouais. Mais il y a ça aussi dans le film de Claire Burger. Il y a aussi en filigrane un regard sur le monde de la culture, en province, comment ça se passe. Cette espèce de fossé, finalement, qui s'élargit entre les riches et les pauvres. Et ça se retrouve aussi dans le domaine culturel.
Les faux boulots, voilà, exactement. Entre guillemets,
Le travail. Mais travailler, est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est, enfin voilà, cette différence entre le travail et l'emploi, toutes ces choses-là sont en filigrane et se retrouvent dans les deux films. Ouais.
Quand je disais en ouvrant cette heure que Première année était presque un préquel d'Hippocrate, on y retrouve l'interne, mais en remontant le temps, cette première année et ce concours délirant dans l'amphi, le premier jour ambiance.
Merci pour cet accueil chaleureux. Je suis Bernard Bertonnet, votre doyen, et à ce titre, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, et notamment et plus particulièrement aux premières années. J'espère que vos conseillers d'orientation vous ont bien prévenu. C'est une année difficile, notamment cette année où vous êtes 20% d'inscrits supplémentaires. De médecine sont une filière sous tension. Dans cet amphi, par exemple, seuls les deux, peut-être trois premiers rangs passeront en deuxième année.
Thomas Lilti, au-delà de l'histoire de ces deux garçons, Antoine et Benjamin, incarnés par Vincent Lacoste et Thomas Lebgill.
William.
Il y a vraiment un film politique derrière, qui décrit notamment l'absurdité de ce numerus clausus, un nombre limité de places pour l'entrée en médecine. Le film a quand même fait bouger les choses ou pas?
Bah, on sait jamais, mais c'est vrai, ce qui est surprenant, c'est que la semaine de la sortie du film, donc j'étais en pleine promotion, notamment ici, France Inter, et quand on a appris, en effet, que le gouvernement annonçait un changement de... une suppression a priori de ce fameux numerus clausus. Bon, depuis la sortie du film, il s'est pas passé énormément de choses.
Relevé de 10% à la rentrée, à la prochaine rentrée.
Voilà, donc il y a une volonté en tout cas de changer un peu la méthode de sélection des futurs médecins.
C'était un petit peu, au-delà du processus artistique, c'était un peu l'ambition quand même, en sous-main, de se dire, on va décrire ce truc fou, et peut-être que ça va changer les choses.
Changer les choses, moi je me pose jamais la question, mais en tout cas de me dire, j'ai envie de raconter ça, parce que il faut être témoin, et à un moment donné, il faut témoigner de cette absurdité, et donc ça part surtout de cette envie-là. J'arrive jamais à m'imaginer que ça puisse changer quoi que ce soit. Quand je fais médecin de campagne sur les déserts médicaux, j'ai l'impression que rien n'a évolué depuis le film, et pourtant le film a été vraiment relayé, et tout le monde sait qu'on a un problème énorme avec la désertification médicale, et pourtant rien ne change.
Rien n'est exagéré.
Non, non. Sur le dans première
année. Tout est
atténué. Ouais. Non, rien n'est exagéré. Ce qui est exagéré, c'est mon parti pris et c'est mon travail. C'est-à-dire, c'est la dimension romanesque du film. C'est-à-dire l'histoire d'amitié qui prend le dessus sur tout le reste. Ça, c'est ma volonté de romanesque. Mais sinon, la part entre documenté du film, elle est très réaliste.
Ouais, l'absurdité de ce système révélée à travers cette scène, description d'un planning d'étudiant de première année de médecine.
Tu pars de chez toi à 7h pour pouvoir t'asseoir dans les transports. Là, tu bosses direct, par exemple ton cours d'embryologie. Quand t'arrives, tu vas directement prendre une place à la bibliothèque. Après, en général, tu restes à la fac jusqu'à 22h, comme ça tu peux encore réviser pendant ton trajet de retour. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Chaque fois que t'as envie de pleurer, tu mets ça dans une boîte et tu te dis que tu ouvriras après le concours. Bah, t'as de grandes chances d'échouer, mais il faut que tu t'acharnes, tu fais le Jedi.
Ouais, mes parents m'ont pris une piole à côté de la fac.
Hein ?
Mais c'est cool.
Et y a beaucoup de triplants ?
Moi, je suis le seul cette année. J'ai une dérogation. L'année dernière, je suis passé à ça de la voir. J'aurais pu aller en dentaire, mais ça me faisait... J'étais voir le doyen, c'est ce qu'il m'a dit ? Que même si ma mère était morte le jour du concours, ça aurait pas été inexcusable. Là, j'ai pris une tête de fou et j'ai menacé de me jeter de la fenêtre du 7e. C'est comme ça sur le bord de la fenêtre. Ah, je vais me jeter.
Bon, sérieux ?
Non. Non, j'avais fait faire un méga dossier avec certificat médical et tout ça.
C'est con parce que mon père, il était à la fac avec le doyen, ils se connaissent bien. Du coup, je pense que si on s'était connus avant, il aurait pu t'aider.
Il est médecin ?
Un chirurgien viscéral.
Ah ouais. Mmh. Ah, classe.
Sarah Noxberg, vous voyez à quoi vous avez échappé à travers les études à l'université.
C'est pas trop tard, hein.
Non.
Ah non. Mais alors jamais de ma vie je fais ça, moi.
Et donc parmi ces deux, il y a Vincent Lacoste qui a commencé un petit peu comme vous, au même âge que vous, hein.
Bah,
oui, dans les beaux gosses.
Ouais, même plus jeune, non ?
Et d'ailleurs, c'est vous, Thomas Lilti, qui l'avait rendu un peu, qui lui avait donné son premier rôle adulte, hein, à travers Hippocrate.
Ouais, alors là, vraiment, je dirais, mais vraiment, alors quand on parle de Vincent Lacoste, dont je me sens très très proche, j'ai la grande modestie de dire que tout le mérite revient à deux personnes. Ariad Satouf et à Vincent Lacoste lui-même, quoi. Il a absolument pas eu besoin de moi pour faire la grande carrière qu'il fait. C'est vraiment un être, hors norme, hein, ouais. Et un comédien incroyable. Ouais.
Oui, mais le rôle est venu au moment où c'était bien pour lui de franchir
une sorte d'étape. Bah, en fait, il fait Les Beaux Gosses, il a 15 ans ou 16 ans. Derrière, il sait pas très bien où il met les pieds. Il accepte, je pense, des rôles dans des films un peu moins importants, on va dire. Et puis moi, j'arrive avec Hippocrate, et il y a une rencontre avec un personnage, etc., une cohérence, mais... C'est un acteur incroyable.
Autre aspect politique et social de votre film, au-delà de ses études, effectivement, ce sont deux garçons qui se rencontrent. L'un est fils de chirurgien et l'autre d'un milieu beaucoup moins favorisé et pas de médecin dans sa famille. Son éducation, sa culture ne l'a pas préparé à ça. Ça, c'est super important comme notion, hein, dans le film.
C'est sûrement ça le sujet du film. Plus encore que de décrire l'absurdité de ce système de cette première année. C'est surtout de montrer comment...
La reproduction.
La reproduction, l'héritage culturel et comment on est très inégaux face au travail et face à la réussite.
Alors il y a l'ombre du père qui est importante dans les trois films. Hein. Dans votre film, elle est très importante parce que ce fils de chirurgien, un petit peu d'ailleurs comme le rôle de Vincent Lacoste dans Hippocrate, qui avait aussi un père chef de clinique. Même.
On retrouve toujours le personnage du père dans les films.
Et le vôtre ?
Le mien, il vit avec ça comme il peut, ouais.
Ouais.
Ouais, bah...
Avec vos films, vous voulez
dire. Mon père est médecin, ouais.
Oui.
Je veux dire, en effet, il y, quand il voit mes films, je pense qu'à chaque fois, bah, c'est un.
Il s'en prend une petite couche.
Ouais, il se prend une petite couche, quoi. Mais on s'entend très bien.
Ouais, merci de le préciser. Guillaume, c'est aussi pareil, hein, le père, très important aussi dans votre film, et d'ailleurs dans C'est ça l'amour aussi.
Alors il y a le père du personnage de Romain
Duris, qui est un ancien, qui est un ex-militant communiste, non ?
Qui est un syndicaliste. Mais qui est absent. Ouais. Donc c'est juste, voilà, il en parle à sa mère, il en parle à sa sœur. Enfin, c'est comme le personnage de Laura, c'est du personnage qui existe à travers l'absence. En fait. Et puis il y a effectivement le personnage d'Olivier, donc incarné par Romain Duris, qui est père également et qui apprend à devenir père d'une certaine façon au fur et à mesure du film.
Sarah, vous avez vu les deux films ?
Oui.
Et alors ?
Oui. Et alors, bah, j'ai adoré les deux, vraiment. Non, mais c'est vrai.
Ouais. Attention, hein.
Non, mais c'est hyper différent. Mais Nos batailles, c'était marrant de le voir après avoir. Enfin, c'est quand même hyper.
Proche.
Hyper proche dans l'histoire et tout. Bon, après, c'est hyper différent. Vraiment, c'est pas du tout la même. Enfin, je veux dire, c'est pas le même film, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais Sarah, est-ce que vous regardez les films différemment depuis que vous en avez fait un ?
Complètement. Ah, mais rien à voir. Et puis surtout, j'ai tellement aimé le plateau de cinéma que je travaille sur des tournages en mise en scène. Je fais des stages et tout. J'ai accroché au plateau. Et du coup, je regarde les films vraiment de manière hyper différente, avec un œil de mise en scène, quoi, la régie.
Mais c'est ça qui vous intéresse, c'est d'être cinéaste.
Je sais pas. Ah, j'ai encore le temps de savoir.
Mais je croyais que vous alliez me dire, je regarde plus les acteurs.
Mais les deux. Non, mais du coup, c'est marrant parce que il y a parfois quand je regarde les acteurs, je me dis, ah, c'est dingue, j'aimerais tellement jouer comme ça, c'est fou. Et puis après, je me dis, ah, mais là, je suis sûre qu'ils ont fait comme ça. Ah, non, moi, j'aurais fait comme ça. Enfin, espèce, je sais pas. Non, mais du coup, c'est hyper. Enfin, je sais pas. Ça marche. Je sais pas si vous comprenez.
Si,
on comprend très bien. Ouais.
Vous allez tourner avec Laurent Conté bientôt.
Oui. C'est ça.
Et alors ?
Eh ben, je suis hyper contente. Je peux pas trop dire quoi que ce soit, mais je suis juste hyper contente. C'est tout ce que je peux dire.
C'était hyper Sarah Lennoxberg, hyper Thomas Lilti, hyper Guillaume Sénès. Bien sûr. Vous restez avec nous. On se retrouve après l'ISO Joyce pour les sorties.
Yeah.
Les sorties, on va commencer par Le Daim de Quentin Dupieux. Un homme acquiert un blouson en daim et décide à partir de là d'éliminer tous ceux qui portent un blouson. Au-delà de ce pitch descriptif de la folie, celle d'un homme normal, et finalement, celui qui en parle le mieux, eh ben, c'est Jean Dujardin.
J'ai eu les clés tout de suite, oui, du scénario. C'est-à-dire que il y a quelque chose, déjà, je ne voulais pas jouer. Je voulais dans une normalité très inquiétante. Parce que c'est plus inquiétant. Faire des choses incongrues quand on est très normal, c'est vraiment flippant que quelqu'un d'anormal qui fait quelque chose d'anormal, on est d'accord. Donc l'idée, c'était de ne rien faire et de porter ce blouson comme si je portais une veste normale. En fait, c'est surprendre. C'est ce que j'aime, moi aussi, hein, parfois dans la comédie. On a un peu l'habitude, parfois, d'avoir une comédie qui remplit un peu les trous, qui doit aller très vite, qui doit être à la fois sociétale, mais ce fameux rythme où, pour le coup, le film devient un gâteau de riz. Au bout de 20 minutes, moi, j'en peux plus. Trop de blagues, trop de situations, trop de trucs. Et parfois, les silences, les creux, l'arythmie, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais de toute façon, ce film est un fantasme. Hein. Oui. Qu'un film comme ça existe encore en 2019, je trouve ça vraiment très, très encourageant.
Voilà, Le Daim de Quentin Dupieux. Contre ton cœur de Teresa Villaverde. Au Portugal, le quotidien d'une famille est bouleversé. Le père se retrouve au chômage et la mère doit alors cumuler deux emplois. Mais leur fille est bien décidée à ne pas se laisser abattre et à continuer à vivre sa vie d'adolescente. Tiens, il y a quelques petits échos avec les films dont on a parlé avant.
Mais oui, bien sûr, tout simplement parce que c'est effectivement l'histoire, une nouvelle histoire de cette crise économique qui fait que les familles elles-mêmes sont en crise parce qu'elles souffrent de cette crise économique, évidemment. Le père, vous le disiez, est au chômage. Il finit quand même par faire les poubelles autour de lui pour manger. La mère supporte deux jobs pour faire vivre sa famille. Et effectivement, l'adolescente Martha, très très bien jouée d'ailleurs par une actrice qui s'appelle Alice Albergaria Borges, je tenais à la citer, eh bien cette adolescente essaye de s'en sortir. Il y a énormément de cinéma dans ce film, c'est ça qui le rend peut-être encore plus intéressant par rapport à ce sujet de départ. Je pense notamment au travelling final, et puis il y a cet appartement qui est un autre personnage du film, d'une tristesse absolue, et que Villaverde éclaire justement avec énormément de science cinématographique.
Buñuel après l'âge d'or, film d'animation de Salvador Simo. Ça, c'est la merveille de la semaine, du mois et plus encore. La renaissance d'un cinéaste Buñuel, surréaliste, après le scandale provoqué par son film L'âge d'or en 1930. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acine, va changer le cours des choses et permettre au cinéaste de réaliser son film Terre sans pain, ou comment un surréaliste affronte le réel tout en restant un surréaliste, touché par ses paysans très pauvres, en gardant quand même sa volonté de déranger. Un récit pas du tout hagiographique, sans complaisance, sur un artiste en pleine création. C'est poétique, c'est émouvant, c'est instructif, c'est un rêve de cinéphile, à la fois accessible à tous, et ça donne envie de voir ou revoir toute l'œuvre de Buñuel. J'ai eu la chance de le voir là où tout a commencé, au Studio 28 à Paris, et vous, Laurent, à la Cinémathèque qui présentait en préambule justement L'âge d'or.
Absolument.
Allez voir cette merveille, oui, oui. Merveille.
Incontestablement.
Nathan, le fantôme de la rue Francoeur de Francis Gendron, portrait d'un des personnages les plus importants et controversés du cinéma d'avant-guerre, Bernard Nathan. En 29, il acquiert Pathé, la plus grande compagnie en France. Il construit un large réseau de salles de cinéma, produit plus de 65 longs-métrages, modernise les studios et les salles pour les adapter aux parlants. Il est attaqué sans répit par la presse française. Plusieurs de ses attaques sont d'ordre antisémite. Il devient le juif le plus haï de France.
Oui, c'est la presse d'extrême droite qui l'attaque. Évidemment, c'est très très suspect d'être à la fois juif et puis de réussir dans ce domaine du cinéma à la fois si populaire. Il a quand même produit une soixantaine de films, dont ceux de L'Herbier ou de Litvak. Donc c'est vraiment une très très belle filmographie. Et ce documentaire enfin rend hommage à cet homme. Il y a des photos notamment de son procès qui sont abominables parce qu'on sent l'antisémitisme permanent. Vichy lui a retiré sa nationalité française, l'a livré aux nazis, et c'est en 1942 qu'il est mort à Auschwitz. Donc c'est vraiment un destin incroyable, et il faut aller voir ce documentaire de Francis Gendron, qui avait déjà produit un autre documentaire sur Jean Zay, donc un peu la même période, ou totalement la même période, qui était tout aussi intéressant.
On va passer pas très peu de temps sur Nous Rêves, malheureusement réalisé par Ralph Fiennes. Une ode à la liberté d'expression, certes de bien beau ballet, sûrement un grand interprète, sans conteste, mais tellement académique dans sa mise en scène, brouillon dans son montage et lisse dans ses descriptions. Mais quelle déception sur ce grand danseur. Anna, un jour, c'est un premier film. Laurent, Anna, oui. À la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et quelques soucis financiers. Elle passe son temps à courir entre travaille la maison et les enfants, mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce sujet-là sur les nouveaux parents,
mais oui, ben
hommes
oui.
ou femmes débordées.
Oui, alors là, là, c'est vraiment du côté de la mère, ce qui est un peu absent dans d'autres films qu'on a évoqués, mais là, vraiment, elle est très, 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 très présente parce que elle se reçoit tout sur la tête et elle la charge. Alors là, elle est là sur ses pauvres épaules ou ses larges épaules, puisqu'elle doit tout subir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ben, justement, la cinéaste dont c'est le premier film, la cinéaste hongroise, en quelque sorte, à travers le film, ben, lui rend une existence, une place à ce personnage féminin que tout le monde oublie ou que tout le monde instrumentalise. C'est ça qui est très beau dans ce film, c'est que à force de la suivre au plus près d'elle-même, eh bien la cinéaste lui rend un très très bel hommage.
Nevada, premier film de Laure de Clermont-Tonnerre. Incarcéré dans une prison, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Voilà, tout est dit de ce film qui déploie son programme tel qu'on l'attend. Sans surprise, une brute va s'adoucir au contact des chevaux. Résistance, apprivoisement, embûche, la violence et les pressions d'un co-détenu, le tout dans des paysages sublimes, à la croisée du western et du film de prison, sans la flamboyance de l'un ou la tension de l'autre. Silence, c'est un film de 71 de Masahiro Shinoda qui n'était jamais sorti en France, Laurent, oui. Et dont, à mon avis, Scorsese s'est inspiré pour son film, complètement.
Oui, complètement.
C'est-à-dire l'histoire de ces deux prêtres portugais qui débarquent sur les côtes japonaises.
Oui, oui, c'est ça, c'est 45 ans,
au 18e siècle.
Avant Jésus-Christ, mais avant Scorsese. Le film, effectivement, se déroule au Japon du 17e siècle. Et d'ailleurs, l'auteur du roman dont c'est tiré, a co-adapté avec le metteur en scène japonais. Et ça donne un film qui est totalement à l'envers. Elle est inverse, heureusement, de celui de Scorsese. C'est-à-dire, c'est ni doloris, ni lacrymal. C'est une très, très belle réflexion sur ce que c'est que la foi et la confrontation avec justement deux fois que beaucoup de choses opposent.
Ça s'appelle Silence. Silence. Et les monstres reprises, bien sûr, d'Ino Risi.
1960, 19 sketchs, certes inégaux, mais à tomber de rire sur ce sont des affreux, des sales et des méchants.
Comme on va partir là en vacances, enfin pas vous Laurent, parce que vous restez tous les matins à 10h, ciné qui chante tout l'été.
C'est vrai, on se donne rendez-vous en chanson.
Alors on va annoncer donc les sorties de cet été et on va commencer par Toy Story. Alors, on craignait l'essoufflement et le manque d'inspiration pour ce quatrième épisode de Toy Story. Cette merveilleuse idée des jouets qui parlent, c'est le quatrième épisode, le plus réussi de tous les quatrièmes épisodes de l'histoire du cinéma. Non seulement l'inspiration est toujours là, mais ils ont réussi à aborder au milieu des poursuites et du suspense des thèmes aussi importants que l'adoption, la liberté, l'amour, l'amitié, au travers de nouveaux personnages et de clins d'œil merveilleux au cinéma, notamment à Spielberg et à Kubrick, pour servir ce propos également très girl power, notamment à travers le rôle de la bergère, Audrey Fleurot, oui en français, parce que cette VF est extrêmement réussie. Moi je vous dis, ça va être un raz-de-marée au box-office, pas besoin d'être voyante pour le prévoir.
Ça sort quand ?
Ça sort le 26 juin. Tarantino, qu'on a écouté dans cette émission Once Upon a Time in Hollywood, son nouveau film sort le 14 août avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Grand film également. Le 21 août, il y a un problème, Laurent, il y a trop de films qui sortent.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a notamment le film d'Arnaud Desplechin, on insistera beaucoup sur ce très très beau film de Cannes, c'est L'Oublié de Cannes à notre avis, avec un Roche Dizem en majesté qui était extraordinaire. Il y aura aussi les films notamment de Guillaume Niclou qui sort à ce moment-là.
Et Dalasso.
Oui, Dalasso, et le film de Ducastel et Martineau, Au Perché, qui reviennent au cinéma. Et pas, contrairement à ce qui a été annoncé, le film du merveilleux film russe Une Grande Fille qui sort le 8 août, je lui ai un petit peu avant. Voilà, c'est une autre date, mais alors là aussi c'est un second film après Tess Nota qui est remarquable.
Rétrospective Almodovar à partir d'hier. Alors on a choisi ce qu'on préférait. Alors moi j'ai choisi En chair et en os, un de mes préférés, La loi du désir ou Matador dans les premiers. Laurent, vous êtes plutôt Étreinte brisée.
Ah oui, Étreinte brisée à mort. Et puis Parle avec elle, merveilleux.
Et tout sur ma mère, Revolver, ouais, enfin sûr, merveilleux, ouais. Cinéaste qui n'a pas eu la palme mais qui a eu un prix d'interprétation. Et voilà. Quand même, et voilà. Cannes justement, au Luxor, bon, c'est à Paris. Du 26 juin au 2 juillet, mais non, mais ça c'est sacrément bien. Ils vont repasser le Ken Loach, donc Sorry We Missed You, J'ai perdu mon corps, ce merveilleux aussi film d'animation de Jérémy Clapin, Alice et le maire de Nicolas Pariser, également grand film, Bacurao, le film brésilien, Portrait de la jeune fille en feu, extraordinaire film Céline Sciamma, et Le traître de Marco Bellocchio.
Autant de films qui ne sont pas encore sortis en salle, donc c'est l'occasion d'aller les voir.
Sinon, Festival du film de Fès, 5e édition du 27 au 30 juin. Festival de La Rochelle, 47e édition du 28 juin au 7 juillet, notamment avec Dario Argento, et Elia Souleyman, le Champs-Élysées Film Festival, sinon. Maintenant, on va passer au cadeau, Laure.
Oui, deux cadeaux pour Sarah. D'abord, c'est légende du cinéma français. Vous qui voulez devenir cinéaste, actrice, enfin tout, voilà, ben, vous avez quelques héritages à regarder. Et puis, je ne sais pas si vous aimez Jacques Tati. C'est un très très beau film un très beau livre, sur Et Tati créa Monsieur Hulot aux éditions Locus Solus sur le tournage des vacances de Monsieur Hulot. C'est plein de belles photos. C'est un beau livre en même temps, très très bien fait, très agréable à regarder et à lire. Pour nos deux cinéastes, deux livres. Alors, dans le désordre, il y a d'abord un livre sur John Crawford, Hollywood Monster.
Incroyable,
évidemment, le destin de cette femme, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle réussissait parfaitement à se faire détester.
Oui.
Avec une application et une détermination.
Une très, très bien.
Très bien.
C'est capricieux.
Pour vous, Thomas Litty, John Huston par Liane Ross, cette grande journaliste américaine, effectivement. Et puis, pour vous, Guillaume Senez, un ouvrage chez Playlist Society, cette jolie maison d'édition, Christopher Nolan, La possibilité d'un monde par Thomas Gerardin.
Super, merci.
Voilà, conseil à nos auditeurs.
Et Festival de Bruxelles qui commence international, deuxième édition. Vous êtes membre du jury.
Tout à fait, oui.
Et il faut les encourager parce que c'est une superbe initiative.
Exactement, donc venez à Bruxelles, venir voir des films et faire la fête.
Il faut toujours aller à Bruxelles.
Merci Thomas Lilti, merci Guillaume Senez, merci Sarah
Lutberg.
Les DVD, vos deux films sont sortis en DVD, Thomas Lilti et Guillaume Senez, pas encore pour C'est ça l'amour. Un très bel été à vous tous, à nos 1 600 000 auditeurs. Merci de nous suivre.
On se retrouve le 31 août.
Ne décrochez pas cet été, retrouvez Laurent tous les matins à 10h pour Ciné qui chante. Sinon, on se retrouve à la rentrée, donc dès le 31 août.
Absolument.
Générique avec vous trois. Merci.
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 Inspiré par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et une actrice.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont aussi des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Marie Blanc s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Alicia Vulot.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Sarah Noxberg, j'y étais.
Et moi, Guillaume Senez, j'y étais.
Et moi, Thomas Lilti, j'y étais.